Bon, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je reprends la parole avec une bronchite terrible qui fait en sorte que ma voix sera peut-être moins audible et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je vais donc, pour ce mois de juillet 2012, vous parler d'Origène. À l'opposé de Carthage, où prêchait Tertullien, il y avait Alexandrie et Origène. À l'époque, l'Égypte était une des parties les plus riches de l'Empire. Alexandrie, fondée par Alexandre, d'où son nom, était un grand centre intellectuel. Toutes les religions, toutes les superstitions venaient s'y rejoindre. L'évêque Clément d'Alexandrie disait: « Il n'y a pas de terre plus superstitieuse que l'Égypte. Toutes les religions orientales y avaient leur temple. » L'empereur Adrien, touriste avant l'heure et infatigable collectionneur, avait aidé à la beauté des monuments, en subventionnant des travaux, et ramené plusieurs souvenirs. Alexandrie abritait une importante communauté chrétienne fondée, dit-on, par saint Marc. C'était aussi une ville scientifique, un vrai pôle intellectuel. Cela n'empêchait pas la populace de se montrer cruelle comme il était fréquent à l'époque. Saint Léonide, converti au christianisme et père de 7 garçons, était considéré comme riche. Il accordait une grande importance à l'enseignement de ses enfants, en particulier de son fils aîné, Origène, qui était particulièrement doué pour les études. Il voulait tout savoir. Saint Léonide lui a fait parcourir tout le cycle des connaissances profondes que devaient posséder les jeunes gens bien nés de l'Empire romain. Grammaire, rhétorique, philosophie, sciences, mathématiques, auxquelles il ajoutait l'éducation religieuse. Sans négliger le profane, le jeune Origène mettait tout au service de la foi. Il cherchait toujours à aller au fond des choses. Avant saint Thomas d'Aquin, il avait senti l'alliance étroite entre la pureté, la foi et la science. Benoît XVI a pris le relais depuis et en a fort bien parlé. Saint Léonide fut pris par la persécution, arrêté puis martyrisé, enlevé à la tendresse des siens. Pendant sa captivité, son fils Origène faisait tout pour l'encourager à tenir bon. Sa mère essayait de modérer son enthousiasme. Il n'était pas forcément indiqué de se jeter dans le martyre qu'allait subir saint Léonide. Mais les conséquences légales du martyre étaient la confiscation des biens. L'État néglige rarement l'occasion de s'enrichir, une occasion de s'enrichir. D'un seul coup, la famille d'Origène se trouva dans la misère. Par bonheur, elle fut recueillie par un gnostique, donc un non-chrétien, mais qui avait pour la famille d'Origène une grande admiration. Cela prouve qu'on peut trouver de la largeur d'esprit chez tous les hommes de bonne volonté. Origène avait hâte de travailler. Il fut à 20 ans professeur de grammaire et de belles lettres. Il imprégnait son enseignement de christianisme. Puis il fut placé par son évêque à la tête de l'école catéchétique d'Alexandrie, toute petite école à l'ombre de la grande université, école à laquelle il donna un lustre certain. Origène aimait jouer avec le feu. Lorsqu'on est jeune, on est souvent attiré par l'héroïsme. Je me rappelle une conversation entre écoliers de 13 ans où nous évoquions l'avenir souhaitable qui consistait à finir missionnaire dans la marmite d'une tribu d'anthropophages. Ce n'était pas une mince affaire de se trouver à la tête de l'école catéchétique d'Alexandrie. Ville savante où tout était savant. Les pères d'Alexandrie étaient versés dans toutes les sciences. Saint Denis, de 195 à 265, Saint Athanase, de 295 à 373, et Saint Cyril d'Alexandrie, dont nous aurons l'occasion de reparler, ainsi que deux femmes, Sainte Catherine d'Alexandrie et Hypatie, une mathématicienne. Deux femmes qui tenaient tête aux juges, ce qui leur a valu des morts atroces mais glorieuses. Dans son enseignement religieux, Origène se laissait volontiers emporter, abandonnant les belles tournures rhétoriques. Il mettait de son honneur à ne pas être aussi bien payé que ses collègues, païens et tenait à ne pas être trop lié à l'aspect matériel des choses. Origène était un contemporain de Plotin, de 210 à 270. Plotin qui a cherché à prolonger Platon et à faire une synthèse entre Platon et Moïse, un éclectisme cherchant une alliance entre une philosophie devenue religion une religion devenue philosophie, ce qui peut conduire à un retour au paganisme. Cette tentation est toujours actuelle. Évacuer toute spiritualité, tout mystère de la révélation, expliquer par des causes naturelles les miracles du Christ qu'on appelle des signes. N'ai-je pas lu que la maladie de la belle-mère de Saint-Pierre n'était qu'un accès de mauvaise humeur dont le Christ sut la consoler. Origène eut de grands disciples, dont Saint Grégoire le Thaumaturge, qui commença sa carrière comme passionné par le droit romain. Origène lui communiqua l'amour de la philosophie, le désir de séparer le vrai du faux et de faire cela dans l'amour des œuvres de Dieu. Origène ne négligeait pas les sciences. Bien au contraire, il appelait la physique, la géométrie, l'astronomie des sciences ministres de la philosophie. C'est un petit peu ce qu'a plus tard saint Thomas d'Aquin a dit, que les sciences étaient des aides à la philosophie, laquelle était la servante de la théologie. C'est une petite hiérarchie que l'on a tendance à oublier de nos jours. Origène répétait que l'astronomie élève l'esprit, lui permettant d'apercevoir la majesté de Dieu en jetant l'âme dans le silence de l'espace infini. La beauté de l'univers vous mène à Dieu. La philosophie était la science des causes premières. Tout cela est assez bien loin des divagations actuelles. Il déconseillait, voire interdit à ses élèves l'étude des philosophies athées, notamment des épicuriens, qui donnent une idée basse des choses et qui risquent de déborder sur un « à quoi bon ?». Du côté de la philosophie païenne, Plotin revoyait toute la mythologie en lui donnant un sens symbolique. Saturne dévorant ses enfants, c'est l'intelligence qui se dévore elle-même en rejetant comme imparfaite les notions qu'elle a élaborées. Jupiter est l'âme du monde qui en a échappé. La Vierge Athéna est la volonté pure de toute attache humaine, etc. Origène a subi une tentation analogue. Il a pris l'exemple du récit de l'Exode, dans lequel Dieu dit aux Israélites de prendre les vases d'or de faux dieux de l'Égypte pour en faire des ornements pour son sanctuaire. Dans la pensée d'Origène, cela ne peut avoir un sens littéral. Dieu ne commande pas de voler. Les vases d'or représentaient ce que la philosophie païenne a volé à la révélation. Origène traduit ainsi l'Exode, « Il faut prendre l'or des Égyptiens pour le consacrer à un saint usage. » Seulement, l'or est dangereux à manier. Les vases égyptiens sont devenus le veau d'or. C'est ainsi qu'Origène a dit, « C'était pour Dieu une nécessité impérieuse de créer afin de manifester sa bonté. » Pour Origène, Dieu n'a pas créé l'homme avec un corps, demeure épaisse devenue une prison dont il doit se dégager peu à peu. La matière et sa lourdeur ont toujours été un mystère pour les philosophes, que nous appellerions éthérés. Origène allait jusqu'à envisager une rentrée en grâce de Satan redevenu Lucifer après l'épreuve. Ces positions ont été condamnées par l'Église. Non, la matière n'est pas mauvaise en soi. C'est elle qui donne à l'homme sa fécondité. Quant à Satan, revenir à Dieu serait se renier lui-même, car il n'existe que dans et pour la révolte. Son cri est « Je ne servirai pas ». Cet orgueil démesuré est sa raison d'être. C'est hélas un état d'esprit que nous retrouvons dans bien des discours, des livres, des films et des chansons actuelles. Je fais ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Ce n'est certes pas ce que pensait Origène qui, dit-on, se mettait à genoux avant de lire des livres sacrés. Mais la pensée généreuse que les épreuves d'ici-bas ramènent obligatoirement au bien et au bon revient à nier la puissance de l'orgueil. Et ça, nous devons méditer là-dessus. La puissance de l'orgueil chez les hommes actuellement est telle qu'ils se mettent à tout. J'ai encore entendu dernièrement à la radio des discours soi-disant philosophiques. Il n'était pas question du bon Dieu, il était question de créer la volonté de l'homme. Le couple était une question de s'accomplir, c'est-à-dire d'asservir les autres pour mieux prospérer dans sa grandeur. Bon. Dieu nous a créés libres, c'est-à-dire qu'il nous a donné l'extraordinaire possibilité de le rejeter, possibilité que certains ressentent comme un pouvoir, puis comme une raison d'être. Comme je l'ai entendu par hasard au cours d'une promenade dans la bouche d'un autre promeneur, j'ignore le sujet de la conversation, « Révolte-toi, montre que tu existes. » Cette mentalité est hélas très actuelle. C'est la grande tentation de notre siècle. Selon le père Marie-Dominique Philippe, Jean-Paul II a dit, fin de sa vie, « L'Église et nous-mêmes subissons la tentation la plus grande depuis le début du monde. » Nous voilà donc revenus au jardin de l'Éden. Que la Sainte Vierge nous donne la force de résister. À l'époque d'Origène, en ce début du IIIe siècle, le canon de l'Église se fixait peu à peu. Le Nouveau Testament l'était déjà en grande partie, mais il y avait des hésitations sur l'Ancien Testament. De nos jours, il y a encore des désaccords entre chrétiens. Les protestants n'admettent pas l'épître de Saint Jacques et certains petits livres de l'Ancien Testament. Je crois que Tobie et Esther ne sont pas admis par les protestants. La Bible catholique est fixée depuis le Concile de Trente. Nous avons encore 1400 ans avant de le voir. Non, 1200 ans. Du temps d'Origène, il a été aussi question de la traduction des Septante. Les Juifs prétendaient qu'elle n'était pas conforme au texte hébreu, car, disaient-ils, des choses helléniques y faisaient tâche. Origène entreprit sur ce sujet un travail de fond pour mettre en accord les différentes versions. 6 colonnes étaient prévues sur les documents fournis au comité de rédaction. La première en caractère hébreu, la deuxième transcrite en caractère grec à l'attention de ceux qui ne savaient pas lire l'hébreu, et les 4 autres réservées aux 4 traductions en concurrence. Cela afin d'arriver au sens littéral le plus irrécusable. Il reste les commentaires. La traduction des Septante actuellement, servie sur la Vulgate, est de plus en plus considérée comme bien bonne, surtout après la découverte des manuscrits de Qumran. Il reste les commentaires. Tertullien et les montanistes voulaient tout prendre à la lettre, alors qu'Origène n'y voyait que des symboles. Ce sont les deux extrêmes entre lesquels on doit osciller avec précaution. C'est aller trop loin de prétendre que les deux enfants ressuscités du Christ n'étaient qu'endormis. Mais certains récits hagiographiques ne peuvent être reçus qu'avec précaution. La largeur d'esprit d'Origène montre que le christianisme permet de voir les choses de haut. Par bonheur, nous catholiques avons le pape, successeur de Saint-Pierre, auquel ont été données les clés du royaume qui a reçu de Dieu le pouvoir de distinguer le vrai et le faux dans la doctrine. Cela dit, la grandeur d'esprit d'Origène, comme aussi la rigueur de Tertullien, ont marqué leur époque. Le christianisme n'était plus une secte juridique. Même pour ses ennemis, c'était une doctrine complète à laquelle il était légitime de consacrer sa vie. Nous continuerons la prochaine fois à examiner ce très intéressant IIIe siècle.